démocratie gazeuse. Je pense aussi que c'est nos institutions qui participent à ça. Je veux dire, la démocratie, elle est moins tangible parce que on a l'extrême droite qui monte énormément et qu'on a un centre et une droite qui se rapprochent de plus en plus des idées d'extrême droite.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions, ses concepts. Et aujourd'hui, à travers la notion de démocratie gazeuse, thème qui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'était pas venu à l'esprit de Cyril dans les toilettes du bistrot Blériot, après s'être risqué au mystérieux chili con carne frite que propose William. Chili qui provoquerait, selon ceux qui l'ont testé, un surprenant retour de flamme, pour rester dans la métaphore. Bref, à travers cette notion de démocratie gazeuse, on va parler politique. Normalement, dans l'équipe, on évite. Comment, en effet, imaginer réconcilier d'un côté 15 humoristes de gauche, dont 14 mélenchonistes, et même le fils du secrétaire de la section Côte d'Or du Parti communiste. De l'autre, Quentin, lui, qui ne vote plus depuis qu'Alain Madelin s'est retiré de la politique. Manon Mariani, la nièce de Thierry, dont il est donc inutile de décrire les convictions, notamment en matière d'immigration.
Tu nous manques, Hitler.
Quant à Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, comment voulez-vous discuter avec quelqu'un qui a embauché une stagiaire simplement parce qu'elle s'appelle Pénélope, comme la femme de François Fillon, son idole en politique. S'il avait été élu en 2017, ça aurait été du solide, pas du gazeux, fulminait-il en conférence de rédaction. Alors justement, vous avez peut-être vu passer cette expression au détour d'un article, c'est quoi la démocratie gazeuse? Est-ce qu'elle signifie qu'on a basculé dans une démocratie instable, informe, voire inflammable depuis qu'Emmanuel Macron a fait exploser le clivage droite-gauche? Histoire de mieux respirer, Cyril, qui est tout énervé, déboutonne sa veste que lui a offerte Robert Bourgis. Et zoom zoom zen, c'est parti.
France Inter. Zoom zoom zen. Noël.
On n'est pas de droite, hein, nous. Hein. Je tiens à le dire, là.
C'est quoi, je ne sais pas.
Et Thierry Mariani ne fait pas partie de ma famille, voilà. Je le redis.
Alain Madelin non plus.
Allez voir sur Wikipédia, vous verrez qu'il fait partie de votre famille. Bonjour Gilles Finkelstein.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter. Vous êtes le secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès, un think tank politique plutôt classé à gauche. On vous retrouve en tant que chroniqueur dans le grand face-à-face sur Inter et régulièrement dans Quotidien. Mais si on vous invite aujourd'hui, c'est pour votre livre, La démocratie gazeuse, la démocratie à l'état gazeux, pour être précis, c'est nous qui avons raccourci, une histoire politique 1945-2045, ça va loin, et c'est sorti chez Flammarion. Alors, qu'est-ce que cette démocratie à l'état gazeux que vous décrivez, dans lequel nous serions plongés? Vous allez tout nous expliquer, juste le temps de vous présenter mes fidèles acolytes, à commencer par cette journaliste qui démontre qu'il n'y a pas besoin d'aller sur le terrain pour vivre de sacrées aventures. L'accident, qui aurait pu être dramatique, s'est déroulé le week-end dernier chez elle, dans sa cuisine, une pièce qu'elle connaît mal, peuplée d'instruments dont elle ignore le nom. Et c'est après un bug du site Uber Eats, qui lui permet chaque soir de se nourrir, que Manon a eu l'idée folle de se faire à manger toute seule. La suite, on la connaît, hein. Au lieu de s'orienter vers son air fryer pour jouer la carte de la sécurité avec une bonne bouchetta, elle tente l'impossible, découper des pommes de terre à la mandoline. Résultat, une phalange en moins. Manon, la prochaine fois, pasta box, c'est très simple.
Oui, c'est vrai. Non, mais
C'est horrible de les voir se donner des conseils sur la bouffe du soir.
Ouais, l'un et l'autre n'y connaissent rien.
Non, mais ça va, vous avez fait une ratatouille dans votre vie, vous.
Je cuisine un peu mieux que ça.
Restons courts.
Vous inviterez.
Chaque après-midi, Manon, on attend avec impatience votre pièce jointe.
Des politiques en parlent depuis des années. Elle est au cœur du discours de Jean-Luc Mélenchon. Une nouvelle République qui suscite de l'envie, mais aussi beaucoup de débats.
Face à vous, Gilles, il n'aime pas beaucoup les intellos dans votre genre. Lui, il pense qu'il faut libérer les forces vives de ce pays et ramener l'impôt sur les sociétés à 10%. Que la démocratie soit solide, gazeuse ou liquide, il s'en fout tant que l'URSSAF arrête de le relancer. Bonjour Quentin, lui.
Bonjour à tous. Oui. Je suis à jour.
Je suis à jour.
Sur 2018.
Avec l'URSSAF.
Quentin, chaque matin, vous partez avec votre petit micro à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre terme du jour. Alors, la démocratie gazeuse, ça leur parle?
Ah ouais, les gens ne parlent que de ça, de toute façon. Je vais vous dire, cette semaine, il y a deux sujets sur lesquels les gens discutent dans la rue. Le nouvel album de Rosalia et très étonnamment, la démocratie à l'état gazeux. Je vous raconte ce qu'ont donné mes rencontres au micro d'Inter dans la prochaine demi-heure.
Et vous, comment aimez-vous votre démocratie? Vous l'aimez fluide, onctueuse ou plutôt bien rigide? Vers 16h30, le Zoom Zoom Test nous entraînera à la découverte de ces pratiques démocratiques dont certaines devraient nous inspirer, d'autres peut-être un peu moins. Juste avant 17h, nous serons rejoints par Lisa Perriot dans la boue aujourd'hui d'une psychanalyste. Et après 17h, restez avec nous, le roi du thriller Made in France sort avec nous. Maxime Chattam sort un nouveau roman qui, je te le dis, amis jeunes qui nous écoutent, file sacrément les miquettes. Mais d'abord, ça aussi, ça file les miquettes. La démocratie française est-elle devenue une démocratie à l'état gazeux? Gilles Finkelstein, déjà, est-ce qu'une démocratie gazeuse, ça veut dire forcément une démocratie sans consistance ?
Non. Peut-être une phrase de plus pour que le nom. Non, c'est une démocratie qui a perdu sa forme. La matière à l'état solide, elle a une forme. Cette forme, ça a été pendant longtemps chez nous le clivage gauche-droite. À l'état gazeux, comme le gaz, elle n'a plus de forme et donc elle est beaucoup moins lisible. Si on prend un seul exemple de l'actualité d'hier, si on essaie de décrypter le vote des uns et des autres sur la suspension de la réforme des retraites, eh bien, une chatte n'y retrouverait pas ses petits.
Effectivement. Lui, il est nostalgique d'une époque où la démocratie était solide et où les choses étaient claires. D'un côté, les gentils, ceux qui soutenaient le général de Gaulle. De l'autre, les communistes, les méchants. C'était quand même plus simple pour se repérer sur l'échiquier politique. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Cyril, chaque après-midi, vous nous faites remonter aux origines de notre expression. Alors dites-nous, la démocratie. On a l'impression que c'est vous qui jouez. Il faut préciser aux auditeurs, c'est pas vous qui jouez.
Non, comme c'est pas moi qui joue de la flûte avec.
Si, la flûte.
Il y a des gens qui le pensent.
Cyril, raconte-nous la démocratie gazeuse, d'où ça sort.
Imaginez une démocratie qui s'évapore. Plus de grandes structures, plus de militants, plus de partis, de la politique qui se diffuse partout, tout le temps, sans jamais prendre forme. Bienvenue dans cette idée de la démocratie gazeuse. C'est une notion qui va émerger dans les années 2010 avec le politologue Dominique Régnier. S'il ne parle pas à proprement parler de démocratie à l'état gazeux, il en définit certains stigmates. Disparition des corps intermédiaires, syndicats et partis, mise à l'écart des médias traditionnels au profit des réseaux sociaux, chacun parle directement à tout le monde et tout particulièrement à ses supporters, sans filtre et surtout sans questions gênantes. C'est le règne de l'instant et de l'émotion, des mobilisations qui s'enflamment en quelques heures avant de disparaître dans le flot ininterrompu de ce qu'on avale. On like, on partage, on s'indigne, mais on ne construit plus grand-chose de durable.
Et quant à cet état gazeux, il semble être apparu lors d'un dîner d'avril 2016.
Eh oui, un dîner où participait notre invité, qui le raconte en préambule de son livre, un dîner autour d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, et qu'il vient de créer son parti En Marche, ni de droite, ni de gauche, disait-il. Un positionnement auquel vous ne croyez pas, mais vous lui dites cette phrase. Notre démocratie a quitté l'état solide, si elle est désormais à l'état liquide, j'ai raison, vous. Et s'il est à l'état gazeux, pardon, c'est toi qui as raison, et c'est le futur président qui avait raison, et il a gagné. Mais la démocratie gazeuse, c'est aussi celle des leaders qui captent un moment date de l'attention avant de se dissoudre dans le tourbillon médiatique. Alors, d'où ça sort, la démocratie gazeuse est bien déjà de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril Gilles Finkelstein. Emmanuel Macron avait donc raison, nous sommes dans une démocratie gazeuse. Pourquoi vous pensiez qu'on était dans une démocratie liquide? Et c'est quoi d'ailleurs une démocratie liquide?
Si je commence par ce dîner, l'essai, alors même que le dîner n'est pas totalement à mon avantage, puisque j'explique doctement à Emmanuel Macron devant une vingtaine de personnes, et je lui explique par le petit menu toutes les raisons pour lesquelles il est engagé dans une impasse et qu'il ne peut pas être élu, et donc comme quelques mois plus tard, il est élu, cette histoire n'est pas totalement à mon avantage. Et pour essayer de... Alors, j'avais un autre élément, un autre argument pour marquer mon opposition au positionnement d'Emmanuel Macron. L'idée, c'était que s'il rassemblait les réformistes de gauche et les réformistes de droite, qui était un peu son projet, on risquait de s'engager dans une démocratie sans alternance possible, ou dans un pays dans lequel le Rassemblement national a ce poids, une démocratie dans laquelle la seule alternative possible était le Rassemblement national. Donc de ce point de vue-là...
Là, vous aviez vu juste.
Alors, j'espère que je n'avais pas vu juste, mais en tout cas, j'avais moins vu faux que pour ça, l'impasse électorale dans laquelle il était engagé.
Alors, qu'est-ce qu'une démocratie gazeuse? Précisément, vous développez la définition, page 20 de votre livre, « La démocratie à l'état gazeux ». C'est une démocratie qui possède trois propriétés, les trois I.
Les trois I. Informe, instable... inflammable. Informe, ça veut dire que, justement, il n'y a plus un clivage qui permet de comprendre les politiques publiques dans lesquelles les citoyens se reconnaissent, qui guident leur comportement électoral. Et donc, en fonction des sujets, les clivages se composent et se reconfigurent, et on le voit à peu près chaque semaine. Informe, ça veut dire aussi que il y a une dissociation entre la politique locale et la politique nationale. Et la France, de ce point de vue-là, est dans une situation inédite. Elle ne l'a jamais connue et je n'ai pas trouvé d'autres pays qui étaient dans une telle situation. Les grandes puissances nationales, les trois candidats qui sont arrivés en tête du premier tour de la présidentielle de 2022, leur formation politique est impuissante localement. Et les grandes forces politiques locales sont impuissantes nationalement.
Il n'y a pas d'équivalent ailleurs de ça.
Non seulement il n'y en a pas ailleurs, on n'a jamais connu ça. La question, c'est est-ce que ça sera durable ? Donc ça, c'est le premier I, c'est informe. Instable, ça veut dire que la mobilité électorale est devenue très forte. Entre deux élections, beaucoup d'électeurs votent différemment. Et même pendant une campagne, ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont même majoritaires.
À changer de
à couleur. Changer d'avis, à passer du vote à l'abstention, de l'abstention au vote, à passer d'un candidat à un autre. On a pu documenter ça avec les très gros panels de suivi des élections, notamment des élections présidentielles qu'on a mis en place depuis maintenant plusieurs élections avec la Fondation Jean Jaurès et avec Sciences Po. Et vous avez entre 50 et 60% des électeurs dans les 100 derniers jours, je ne parle pas pendant l'année de campagne, dans les 100 derniers jours qui changent d'avis. Donc ça, c'est le deuxième I.
Reste le inflammable.
Instable, reste le inflammable. Inflammable, c'est la montée des populismes, la montée du complotisme qui est une vraie idéologie, c'est-à-dire une vraie représentation de la société et que partage maintenant 15, 20, 25% de la population. C'est, on l'a vu au moment du mouvement des Gilets jaunes, la violence qui est considérée par une autre partie de la population comme un moyen légitime pour faire valoir ses revendications. Bref, ce sont l'ensemble de ces phénomènes-là. Et le tout, c'est la démocratie à l'état gazeux.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Ni solide, ni liquide, zoom sur la démocratie gazeuse aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen avec Gilles Finkelstein, le secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès, qui sort justement un livre sur ce thème qu'il a forgé, la démocratie à l'état gazeux, une histoire politique 1945-2045. C'est chez Flammarion. Gilles, pour être très concret, en reprenant votre définition, la démocratie à l'état gazeuse est d'abord informe. Ça, c'est la faute au fameux « en même temps » du macronisme ?
Alors, c'est pas que la faute du « en même temps », parce que, en fait, si Emmanuel Macron est élu en 2017, c'est que les conditions du passage du liquide au gazeux étaient réunies, et il en a eu l'intuition. L'affaissement du clivage gauche-droite ou la secondarisation, la relégation du clivage gauche-droite, elle est antérieure à 2017. C'est d'ailleurs quand on passe du solide, de la démocratie à l'état solide, en gros 1962-1992, quand on bascule dans l'état liquide, que le clivage gauche-droite, qui avait une situation de monopole, devient concurrencé. Voilà, pour utiliser une image économique libérale. Donc, Emmanuel Macron, il accentue ce phénomène, et 2017 est la première élection dans notre histoire, dans l'histoire de la Ve République, dans laquelle les deux candidats qualifiés au second tour se revendiquent et l'un et l'autre ni de la gauche, ni de la droite. C'est un des éléments qui symbolise ce partage-là, et puis ce passage-là. Et puis, le deuxième, c'est que le clivage européen est venu traverser et la gauche et la droite dans les deux grands référendums sur la monnaie unique en 1992, sur le traité constitutionnel en 2005. Et souvent, pendant les campagnes, parce que ce sujet divisait leur camp, les candidats des partis traditionnels avaient un peu l'Europe honteuse. Eh bien, Emmanuel Macron a eu l'Europe fière, il l'a revendiquée et il a fait de l'étendard européen le drapeau derrière lequel ont pu se rassembler des électeurs qui venaient de la gauche et qui venaient de la droite. C'est ça aussi, ça a marqué le passage à l'état gazeux.
Il y a un sondage assez terrible qui est sorti ce week-end vis-à-vis du président de la République. 89% des Français estiment que le macronisme est d'ores et déjà mort et enterré. Est-ce que le départ d'Emmanuel Macron en 2027 pourrait permettre un retour du clivage traditionnel, droite-gauche en France, tel qu'on l'a connu ?
Deux remarques. D'abord, la question suppose que le macronisme ait existé. C'est pas simplement pour faire un bon mot ou un mauvais mot. C'est que Emmanuel Macron n'a jamais essayé, y compris après son élection, ni lui, ni son parti, de redéfinir une doctrine et d'essayer de trouver un clivage qui restructurait la vie politique. Bon, donc 89%, ça me paraît juste, mais je pense qu'il n'a jamais réellement essayé. Et s'il n'a pas essayé, c'est sans doute parce qu'il préférait garder des marges de manœuvre, de la mobilité, plutôt que de fixer une doctrine qui est quelque chose qui enferme.
Pardon, Jim, mais là, on touche à quelque chose qui me semble assez important pour nos auditeurs. Vous voulez dire que Macron, il n'a pas d'ossature intellectuelle politique, le macronisme, c'est un bricolage politique opportuniste en fonction de comment il sentait l'opinion à chaque moment de...
Alors, sur beaucoup de sujets, oui, sans aucun doute. D'ailleurs, on voit notamment sur les sujets régaliens, sur la question de l'immigration, pour ne prendre que ce seul exemple, entre le Macron de la campagne présidentielle de 2017 et la loi Darmanin qui a été votée il y a un an, Le moins qu'on puisse dire est que là, il n'y ait pas eu une ossature très ferme. Il y a des sujets sur lesquels il y a de la continuité, l'engagement européen en est un, mais ce qu'il n'a jamais voulu faire, c'est vraiment définir ce qu'était le macronisme.
Vous parliez de l'instabilité tout à l'heure. C'est ce qu'on voit dans les logiques d'alliance. Le PS avec LFI l'an dernier, le PS qui ne veut plus s'allier à LFI, par exemple. Est-ce que c'est ce genre de comportement qui fait que les Français ont de moins en moins confiance aujourd'hui en les hommes politiques, les femmes politiques ?
Ces différentes alliances, elles s'expliquent d'abord par le mode de scrutin qui, en 2022 et davantage encore en 2024, sauf à choisir la voie du suicide, qui est rarement ce que font les partis politiques, d'une certaine manière était obligatoire dans le contexte de la dissolution. Après, c'est pas surprenant que ces alliances-là aient été dénouées. Je pense qu'une des difficultés pour les Français, c'est pas seulement les changements d'alliance, c'est le fait que la vie publique a perdu beaucoup de lisibilité et aussi qui considèrent que la démocratie a perdu beaucoup d'efficacité. Et quand on met les deux éléments l'un avec l'autre, et ben ça produit des taux d'abstention qui sont importants et une défiance politique qui est à des niveaux qui sont considérables.
Il y en a marre des vélos cargo sur les quais de Seine, remettez-nous les voies sur berge et rendez-nous Pompidou. Tels furent les mots étonnants pour un homme d'à peine 34 ans que prononça Quentin ce matin après avoir écrasé un père de famille à vélo sous son puissant scooter qui, étant doté d'une marche arrière, lui permit de lui repasser dessus en marche arrière. Ça ne nous rendra pas Pompidou, mais ça détend, me confiera Quentin.
Et quelle vie vous m'inventez. J'adore les voies sur berge. À pied.
À pied, c'est vrai.
Ah, c'est magnifique.
Vous êtes piéton, vous, parfois
le week-end.
Non, vous êtes piéton. Je vous rappelle que vous êtes piéton tous les jours quand vous faites votre micro-trottoir, Quentin.
Alors c'est déjà, la séquence qui déjà vient. Mais ce qui n'est pas c'est pas une marche rapide. Je zone un peu, quoi. Je flâne. J'aime ça.
Oui, c'est votre lancement, quand vous pouvez y aller.
Ah, c'est bon, c'est
oui,
bon. Je flâne. Je marche le long du boulevard Saint-Michel à Paris. À l'angle de la rue Soufflot, j'observe tout en haut le Panthéon, majestueux, et je m'aperçois qu'ils n'ont pas encore décroché l'immense photo en noir et blanc de Robert Badinter. Ici, je rencontre cette jeune femme.
La démocratie gazeuse.
De quoi on parle ?
Déjà de démocratie, ma foi.
Ouais.
Et gazeuse, là, j'avoue que...
D'accord, on n'y comprend rien, Gilles. Voilà, notion complexe qu'on décortique aujourd'hui. On a mis 15 minutes, nous-mêmes, à comprendre. Je parle à Jules d'une démocratie qui, comme le gaz, serait informe, instable, inflammable. Jules, il est étudiant en histoire à la Sorbonne.
Démocratie gazeuse. Ok. Je pense aussi que c'est nos institutions qui participent à ça. Je veux dire, la démocratie, elle est moins tangible parce qu'on a l'extrême droite qui monte énormément et qu'on a un centre... et une droite qui se rapproche de plus en plus des idées d'extrême droite, que nos institutions y participent activement avec des alliances vraiment assez odieuses sur des lois comme on a en ce moment sur le budget, avec la suppression des appels pour les étudiants étrangers et le PS qui fait des concessions là-dessus, et que je pense que les gens ils ont aussi plus envie de voter, qu'on se retrouve dans une situation démocratique particulière parce que en fait, les partis ne respectent plus leurs promesses et on se retrouve dans des situations... vraiment de merde.
De merde, d'accord. Mais alors maintenant qu'on a fait ce constat ensemble, comment on change les choses ?
C'est une question compliquée. En redonnant la parole aux gens.
Donc quoi, c'est une sixième république ?
Oui, moi je suis pour une sixième république de fait. Je pense qu'aujourd'hui nos institutions elles fonctionnent plus telles quelles. Que l'Assemblée, le Sénat, la manière dont est élu le Sénat, c'est absolument pas démocratique. Qu'on doit avoir effectivement une assemblée constitutionnelle. Que redonner la parole aux gens, pour moi actuellement ça serait probablement la meilleure solution. Il y a la volonté de... qu'aucun des parlementaires actuels ne puisse être réélu dans cette sixième république. Ce qui forcerait des nouvelles personnes à se mettre sur le devant de la scène, des gens qui n'ont pas fait de politique forcément dans leur vie, qui viennent un peu partout, cette idée de député du parti civil.
Des vrais gens, quoi.
Des vrais gens, qui n'ont pas fait de la politique leur profession.
Je marche quelques pas et j'arrive dans le jardin du Luxembourg, où je devine, au travers des arbres qui s'effeuillent, le Sénat. Dans l'une des allées du parc, je tombe sur ce monsieur, chapeau, veste à carreaux, très chic.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Shaoul.
Vous avez quel âge ?
70 ans. Démocratie gazeuse ? Je sais pas. Si elle est gazeuse, c'est qu'elle n'est pas une démocratie.
Eh bien oui, je lui pose cette question. Est-ce que la France reste une démocratie ?
Oui. Oui. Parce que si vous avez suivi les infos les derniers jours, vous ne pouvez pas me poser cette question.
Pourquoi ?
Mais ils accusent le président, ils accusent le premier ministre, ils accusent... C'est une démocratie, c'est ça. Et on dit ce qui nous plaît pas. Et si c'est pas une vraie démocratie, le lendemain, moi, il me zigouille. Vous avez compris ?
Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que là, vous avez le droit de le dire sur France Inter, quoi.
Mais oui.
C'est-à-dire que le fait qu'on en parle tous les deux, là, déjà, c'est le fait qu'on est dans une démocratie.
Mais c'est évident.
D'accord, mais alors, vu la situation actuelle, les crises politiques de ces derniers mois, par exemple, est-ce qu'on pourrait se dire que cette démocratie n'est plus si démocrate ?
Mais allez la voir dans d'autres pays. Moi, j'ai vécu au Liban et on m'a... C'est dingue. Ils nous bombardaient tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Vous ne pouvez pas imaginer que la France n'est pas une démocratie. C'est impossible.
On est trop dans le confort, nous, en fait.
Mais oui. Mais vous avez une liberté totale.
Je repense à ce que me dit Shaoul et j'en parle à ce jeune homme que je croise. Qu'est-ce qu'on répond sur notre démocratie quand on regarde le reste du monde ?
Comment dire, c'est toujours l'argument, on nous rapporte toujours à d'autres institutions en disant vers d'autres pays, d'autres systèmes, en disant ouais mais en France regardez, en vrai c'est mieux que la Russie, en vrai c'est mieux que la Corée du Nord. Mais finalement, fait vraiment la démocratie en son sens originel, c'est un certain pouvoir du peuple sur les décisions qui sont prises. Et là il y a une réelle déconnexion avec les décisions prises par l'Assemblée, par nos ministres, par le président, qui sont vraiment plus en accord avec la volonté du peuple. Et du coup, ça participe à la déstabilisation de la démocratie. Et pour moi, on peut clairement dire qu'on s'éloigne vraiment de l'idéal démocratique dans notre pays.
En quittant le jardin du Luxembourg, le vent soulève les feuilles et au loin, je vois la photo de Badinter qui semble presque nous observer, comme pour nous rappeler que la démocratie, elle ne s'enterre pas, elle s'entretient.
Parfois, je ne sais pas si c'est Quentin Luy qui est à côté de moi ou la réincarnation de Malraux. C'est vraiment bouleversant. Gilles Finkelstein, comment elle s'entretient notre démocratie ? Ce jeune homme qui dit que ce n'est pas une bonne idée de se comparer au reste du monde en disant que nous, ça va. Effectivement, on est en démocratie, mais elle est largement perfectible, cette démocratie, actuellement.
C'est la définition même, et c'est le principe même de la démocratie. C'est d'être un horizon à atteindre que l'on n'atteint jamais. Et donc, on a raison d'avoir la démocratie exigeante, mais on a tort d'avoir la démocratie honteuse. Et je trouve ça très intéressant, cet auditeur libanais, si j'ai bien compris.
Shaoul, il s'appelle Shaoul.
Parce qu'il suffit d'aller dans un pays qui n'est pas une démocratie pour sentir que l'air qu'on y respire n'est pas exactement le même que dans notre pays. Donc, il faut avoir la démocratie exigeante, ça. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Quand j'entendais Quentin, une des personnes interrogées, dire qu'il faut redonner la parole aux gens. Ce sentiment de ne pas avoir prise sur la démocratie, c'est un sentiment qui est très puissant. Et de fait, on se contente depuis maintenant des années et des années, c'est bien avant Emmanuel Macron, d'avoir des présidents et des gouvernements qui s'appuient sur une minorité de l'opinion, de par les mécanismes de l'élection présidentielle et du scrutin majoritaire. On utilise peu les mécanismes de démocratie directe, on parle toujours du référendum, on ne l'utilise jamais, donc il y a sans doute beaucoup de réglages à faire comme ça, mais quand la crise n'est pas seulement une crise française, mais une crise européenne, ça veut dire que c'est pas simplement en changeant des tuyaux qu'on règle le problème.
Mais Jules parle d'une 6e République, c'est lui que vous citiez à l'instant, il dit aussi, il parle des parlementaires qui sont actuels, qui ne pourraient pas se présenter dans le cadre d'une nouvelle République. Ça veut dire qu'on aurait tout un paysage politique qui serait neuf, nouveau. Ce serait une bonne idée, ça ?
Alors, je ne crois pas. On a eu ça
au début de Macron.
Alors, on a d'abord eu ça au début de la Révolution française.
Ah, vous remontez plus loin.
Je remonte plus loin. Mais on a eu ça exactement au début de Macron. L'Assemblée nationale de 2017, à 75%, a été une assemblée renouvelée. Je ne suis pas sûr que ça ait si bien fonctionné que ça, parce que pour faire fonctionner une assemblée, eh bien, il faut quand même avoir un peu d'expérience politique. Ça sert aussi.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Dans Zoom Zoom, pas de démo. J'ai appuyé sur le mauvais bouton sur la console, ce sont des choses qui arrivent.
C'était sur les grosses têtes.
Exactement, j'ai écouté. Dans Zoom Zoom Zen, pas de démocratie gazeuse ici, on peut parler de démocratie en granit. Une démocratie inaltérable, sous l'égide de Cyril Lacarrière, véritable statue de l'île de Pâques du management qui résiste à l'érosion de la chienlit. Dans le temple du plaisir informatif, tout le monde peut s'exprimer dans un cadre clair, accepté par tous, et dont les contours ont été précisément délimités avec du béton armé, des tessons de verre.
Silence, chroniqueur de bas étage.
Je vous propose aujourd'hui aujourd'hui un Zoom Zoom Test à l'image de notre émission puisque nous partons à la découverte des démocraties les plus foireuses. Et on démarre dans un pays où justement on ne plaisante pas avec la démocratie. Là-bas, quand c'est jour d'élection, personne ne dit « Oh, flemme, il fait beau, on va plutôt faire un barbecue ». Non, parce que là-bas, le vote est obligatoire. En tout cas, si vous oubliez de vous rendre aux urnes, vous prendrez une grosse amende. Et si vous récidivez dans le barbecue, ça sera des travaux d'intérêt général, voire même de la zonzon.
Quelle indignité.
Là-bas, le taux de participation flirte donc avec les 90%. Seule la Corée du Nord fait mieux. Vous aurez bien évidemment reconnu le rigoriste Turkménistan, le décidément pas déconnant Cap-Vert ou l'immense Australie.
Oh, 90.
Waouh.
Taux de participation 90%.
Cap-Vert, bon, je vais mettre le Cap-Vert.
C'est
le Cap-Vert,
Australie, oui. Australie, allez.
L'Australie.
Oui, Turkménistan, j'y crois pas.
Turkménistan, peut-être qu'on ne vote pas vraiment aussi, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est une bonne réponse, au hasard, mais bonne réponse quand même, de Manon Mariani. Et oui, c'est ça, l'Australie.
Effectivement.
Comme disait Cyril en regardant pour la 30e fois Crocodile Dundee, ça passe peut-être ses journées pieds nus à jouer du didgeridoo en regardant les vagues, mais quand il s'agit de voter, il y a du monde. Au Turkménistan, le vote n'est pas obligatoire. Ce qui est visiblement obligatoire, c'est de voter pour le président sortant,
oui,
qui a
voilà.
été réélu à 97% oui. des suffrages. Pour la prochaine question, embarquant dans
ils
la...
Sont
pour la prochaine question...
Je suis pas sûr que ce soit pour ça, mais...
Embarquons dans la business class du Gay Savoir Airlines. Direction mon troisième pays de cœur, après la Suisse et le Luxembourg,
d'accord.
le Liechtenstein. Si vous voulez plus d'informations sur la principauté, vous pouvez poser toutes vos questions à Pierre Courade sur le formulaire de contact de son blog ilvoyage.fr. Une chose est sûre, Manon, Quentin, au Liechtenstein, la démocratie est tellement fluide, tellement directe que... Les citoyens ont voté par référendum pour l'augmentation des pouvoirs du prince. Ils ont adopté une réforme constitutionnelle mettant en place l'alternance politique obligatoire à chaque scrutin. Ou c'est le premier pays où on ne vote que par Internet pour limiter l'impact écologique d'un scrutin.
Wow, c'est
il y a peut-être plusieurs réponses. Peut-être que vous pouvez nous aider là-dessus.
Je vous donne un indice, il n'y a qu'une seule.
Alors, je dirais B, moi.
Moi, je dirais C.
Vous dites C, dit B. Gilles, vous dites peut-être autre chose ?
Je dis non, c'est aussi, mais...
C'est une mauvaise réponse. Personne n'a la bonne. C'était la première.
Attends, on a Gilles avec nous dans l'équipe.
Ouais.
Fascinant liechtensteinois, puisque c'est comme ça qu'on dit. Alors qu'ici, on pinaille pour savoir si Bernard Arnault devrait payer plus d'impôts, là-bas, les citoyens ont voté pour que le prince ait plus de pouvoir. Une démocratie qui aime son prince, ça, c'est la démocratie telle que la conçoit mon ami Stéphane Bern. On embrasse au passage le prince de Liechtenstein, Hans Adam II, dont Stéphane me disait qu'il était un grand prince.
Avec un tout petit pénis au repos.
Mais chut! Partons plutôt pour ce continent qui, non content d'être.
Ça arrive à des gens bien. Hein.
Évidemment, d'être le berceau de l'humanité,
ça va, content.
A également inspiré les plus grands artistes qui, tous, un jour ou l'autre, ont crié son nom. Alors, Afrique à Dieu, n'étant plus en playlist sur France Inter, on a tendance à oublier la puissance du couplet qui dit, je cite, vous vous souvenez des paroles ? Il pleut des oiseaux
non,
aux Antilles, sur des forêts de Magnolia, les seins dorés brûlant des filles passant à deux pas de mes dix doigts. C'est sublime. Mais c'est beau.
Non,
mais
ça l'est pas.
L'Afrique, c'est
gênant.
Je vais partir de ce studio.
L'Afrique, c'est très grand. Et c'est en Gambie que nous posons nos valises. La Gambie qui peut s'enorgueillir d'un mode de scrutin assez original en vigueur depuis l'indépendance du pays en 1965. Selon vous, Manon Quentin, pour élire son président, le peuple gambien doit faire quoi ? Voter à main levée ? Déposer une coquille d'arachide dans une urne en bois ? Ou glisser une bille dans un bidon aux couleurs du candidat ?
Ah, j'irais c'est...
Waouh ! Ah, la main levée ?
Et main levée, non, c'est chaud quand même. À l'échelle d'un pays.
C'est chaud, ouais.
Technique infaillible.
Par village, peut-être ? Non, j'en sais rien. Non, mais moi, je dis
c'est. J'ai dit,
moi, je dis c'est.
Pour vous, la Gambie n'est considérée que de village, visiblement, Quentin.
Non, j'ai pas dit ça.
Il y a aussi
ça.
Des villes. Hein.
Mais à main levée, comment on fait ?
Très bien.
Sinon.
Donc Manon, vous dites ?
À main levée, toujours le point levé.
À main levée, oui. Oui, comme
la C, les billes.
La C, les billes. Vous pensez qu'ils jouent aux billes, les...
ouais.
C'est une bonne réponse, Quentin. Eh oui, Gambie. La Gambie, voilà une démocratie solide. Où la présidentielle se joue aux billes. Ça peut paraître ridicule, mais c'est en fait diablement malin. Au bruit que fait la bille en tapant au fond de l'urne, aucune contrepartie cachée ici,
ouais.
On sait que l'électeur a voté et qu'il a bien voté une seule fois. Système infaillible pour empêcher les fraudes électorales. De l'autre côté de l'Atlantique maintenant, au Brésil, ce pays dans lequel on a l'impression d'être propulsé lorsque le DJ du Bayoko se lance.
Vraiment, Sardou, Claude François.
Ça, c'est les fameuses soirées Normandie-Janeiro.
Ah ouais.
Le Brésil est un pays plein de surprises, à tel point qu'en 1959, lors des élections municipales de Sao Paulo, qui d'après vous a été élu ? Pelé, le footballeur ? Adolf Bolsonaro, le père de Jair Bolsonaro, qui visiblement, vu son prénom, n'était pas un Brésilien de souche ? Ou un rhinocéros ?
Oh, là, c'est dur.
Vas-y, c'est...
Un rhinocéros ?
C'est l'histoire politique.
Moi, je dirais Pelé.
Pelé.
Ouais.
Il a été élu à Sao Paulo.
Ça a tellement été un dieu.
Et vous?
C'est le rhinocéros.
Le rhinocéros, pour quelle raison?
Mais je ne sais pas. Ça a l'air d'être loufoque. Mais oui, c'est ça.
Ça a l'air d'être loufoque. C'est une bonne réponse. Sacré brésilien. Oui, le 8 octobre 59 à Sao Paulo, pour protester contre la corruption, un parti a présenté comme candidat un rhinocéros. Et évidemment, il a été élu. Alors l'élection a été invalidée. Le rhino n'a jamais dirigé un conseil municipal. En revanche, l'histoire a inspiré les Canadiens. Le Canada, où un parti anti-système a pris pour symbole le rhinocéros. Voilà pour ce tour du monde du Gai Savoir. Ah ouais. Victoire de Manon. Et c'est triste, j'aurais voulu que... J'aurais aimé que Quentin l'emporte, parce que vous savez que Quentin, tout à l'heure, il y a eu un cri du cœur. On ne savait pas s'il était de droite, de gauche, on ne savait pas trop où il se situait politiquement. Mais tout à l'heure, quand il a parlé de la mort du macronisme, on a entendu les trémolos dans sa voix. Écoutez, c'est terrible.
89% des Français estiment que le macronisme est d'ores et déjà mort et enterré.
Il est mort. Il est mort. Votre soleil, Quentin.
Il est vexé.
Ah non, non. Je ris quand c'est drôle, mais pas trop.
Oh là là.
Ah, évidemment. Emmanuel Macron a-t-il liquéfié, puis gazéifié la démocratie française? Est-il raisonnable de dire qu'Emmanuel Macron est le Soda Stream de la République française? Notre invité Gilles Finkelstein ne va pas jusque-là, mais son livre est passionnant. La démocratie à l'état gazeux, une histoire politique 1945-2045. Ça vient de sortir chez Flammarion. Gilles, on est aujourd'hui 10 ans après les attentats du 13 novembre. Est-ce que ces attaques ont durablement ébranlé notre vie politique et démocratique? Est-ce qu'on peut voir dans les situations actuelle, quelque chose qui naît aussi aux environs du 13 novembre 2015?
Alors, d'abord, je crois que c'est un événement qui a réactivé la valeur de la liberté. On entendait dans le débat précédent ce débat pour savoir si on était dans une démocratie, et quand on la regardait de l'extérieur, on peut avoir de la même manière le sentiment que la liberté, c'est quelque chose d'acquis, et on a vu à quel point c'était quelque chose qui était attaqué, qui était menacé. Et donc je crois que ça, il y a eu cette première dimension là ensuite c'est un événement qui a fait nation. Il y a une multitude de mémoires individuelles et on les voit, et selon la proximité que l'on a à l'événement, on voit que la mémoire se construit différemment, mais ça a été aussi un événement collectif et avec quelque chose de collectif qui s'est construit. Je crois que c'est Régis Debray qui disait une nation, c'est quand le « nous » se construit sur un « non ». Et là, le « nous » s'est construit sur le « non » à ces attentats et sur cette défense de la liberté. Et puis peut-être un dernier point, autre impact sur la démocratie, ça a modifié l'état du droit dans beaucoup de sujets, notamment avec les lois d'urgence qui ont été pérennisées. Et ce faisant, ça a sans doute aussi fragilisé l'état de droit.
Manon.
En début de semaine, la Fondation Jean Jaurès a publié une enquête à ce sujet. Il est écrit en résumé que les commandos islamistes du 13 novembre 2015, en tuant 130 personnes et en faisant des centaines de blessés, ont également tué une part non négligeable d'insouciance et de légèreté chez les Français et chez les Parisiens. Comment ça se traduit dans notre quotidien?
Alors, je ne sais pas comment ça se traduit. Ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, ça soit ressenti comme ça. J'ai été frappé du pourcentage de Français et de Parisiens, d'ailleurs, là, pour le coup, c'est à peu près la même chose, qui disent « c'est un événement qui changera pour toujours ma manière de percevoir la vie et les choses ». 60% qui disent « ça change ma vie pour toujours ». C'est beaucoup, et plus d'un quart, on est à près de 30% des Parisiens qui disent ça a changé mes habitudes quotidiennes. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Ce que l'on a vu, en tout cas, c'est la montée de la peur comme un phénomène diffus. Et donc ça, de ce point de vue-là, ça a eu un impact, je crois, un impact durable.
Gilles, votre livre explore l'histoire politique jusqu'en 2045. On est là dans la politique fiction. Vous évoquez un quatrième état dans lequel pourrait plonger notre démocratie, l'état plasma. Alors là, de quoi s'agit-il?
L'état plasma en chimie, c'est assez inutile que je vous le précise, parce que vous connaissez ça par cœur.
Mais c'est, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas.
S'il y avait des auditeurs qui ne connaissaient pas, c'est donc le quatrième état de la matière, et c'est celui de la dissociation complète des atomes. Il y a une image de ce qu'est l'état plasma sur Terre, parce qu'il est surtout répandu dans l'univers. L'état plasma, c'est la foudre. Et donc, ça serait la foudre qui s'abat.
Et la foudre, c'est Jordan Bardella.
Sur démocratie. Ça peut être, si on commence par la France, ce que je fais, la victoire du Rassemblement National en 2027, et ce que j'étudie, ce sont les effets que cela pourrait avoir en partant des propositions du Rassemblement National, pas en partant de son histoire, pas en partant de sa culture, et notamment ce qu'il préconise, c'est-à-dire un référendum en violation de la Constitution pour introduire notamment la préférence nationale dans la Constitution elle-même. Donc l'état plasma, ça peut être ça. Et puis quand on se projette à plus long terme, c'est l'analyse d'un certain nombre de grandes tendances. 20 ans, ça peut paraître loin, mais on sait que dans 20 ans, le vieillissement démographique sera là, que la révolution numérique sera encore plus profonde. Et je rebondis sur un point qui a été, en une seconde, qui a été évoqué tout à l'heure dans votre test. Vous disiez, à Sao Paulo, pour protester contre la corruption, on a élu un rhinocéros. Eh bien, il y a quelques semaines, en Albanie, pour lutter contre la corruption, le Premier ministre a nommé une IA. Comme ministre des marchés publics. Ouais. Eh bien, c'est un peu le même phénomène. Et la question que je pose, c'est pour quelles raisons, alors qu'on aura de plus en plus confiance, on donnera de plus en plus de décisions de notre vie à l'IA, on aura de moins en moins confiance dans les politiques, pour quelles raisons on ne demanderait pas à l'IA de construire un certain nombre de politiques publiques.
La suite est dans la démocratie à l'état gazeux. Gilles Finkelstein, c'est chez Flammarion. Vous écoutez Inter, il est 16h46. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une autre république aujourd'hui, la sixième, celle qu'on promet à chaque crise politique, un peu comme une utopie, un antidote à la lassitude démographique. Et il y a un homme qui en a fait le cœur de son offre politique aujourd'hui.
Nous voulons une sixième république et mettre une limite à l'autorité sans contrôle du président de la République en rendant possible le référendum révocatoire.
Jean-Luc Mélenchon, pour lui, la cinquième, celle de De Gaulle, est devenue une monarchie présidentielle dans laquelle trop de pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un seul homme et pas assez dans celles du peuple. On l'a entendu, le leader de la France insoumise parle de référendum révocatoire comme élément central de la sixième République, un droit civique qui existe dans plusieurs États et qui donne aux citoyens la possibilité de révoquer un élu. Mais cette idée de sixième République n'est pas née dans la tête de Jean-Luc Mélenchon. Michel Rocard en parlait déjà dans les années 90. Simone Veil proposer un système à l'américaine où les ministres seraient directement dirigés par le président. Une décennie plus tard, c'est Arnaud Montebourg qui a repris l'idée dans son livre paru en 2005, La constitution de la 6ème République pour réconcilier les Français avec la démocratie. Tous dénoncent à peu près la même chose, un président tout puissant. À l'origine, la 5ème République est aussi née d'une crise. En 1958, en pleine guerre d'Algérie, la 4ème République s'effondre, les gouvernements chutent les uns après les autres, à raison de 4 par an. De Gaulle revient au pouvoir et instaure une nouvelle constitution bâtie sur un exécutif fort censé garantir la stabilité du pays. Mais plus de 60 ans plus tard, pour certains, le remède ne fonctionne plus, le pouvoir s'est verticalisé, les débats se sont verrouillés et le lien entre les élus et les citoyens s'est fragilisé. Aux législatives de 2022, plus d'un Français sur deux s'est abstenu. Selon une étude d'Ipsos, 72% des Français estiment aujourd'hui que le système démocratique fonctionne mal. Peut-être que la 6ème République n'est pas une nouvelle constitution à écrire, mais une confiance à reconstruire entre ceux qui gouvernent et ceux qu'on a fini par ne plus écouter.
Merci Manon. Gilles Finkelstein, d'un mot, c'est soit l'état plasma qui nous attend, soit cette 6ème République, ça peut être une solution ?
Oui, enfin ça peut être ça ou ça peut être mille autres choses. Ce que je dis, c'est que l'état plasma est maintenant un scénario plausible et donc il faut y réfléchir et le cas échéant se mobiliser pour que ça n'arrive pas si ce n'est pas ce que l'on souhaite. Après, il y a mille autres options.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Voilà enfin quelqu'un qui a des points de comparaison en matière de démocratie. Lui qui a sur sa bio Instagram, il revendique avoir visité pas moins de 127 pays, dont 85 démocraties qu'il a classées. De la plus efficiente, la Norvège, à la plus nulle, le Cap-Vert. Pierre Courade, chaque après-midi, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une petite minute chrono. C'est à vous.
Moi, j'aurais dit démocratie molle, mais c'est un terme que n'a pas repris notre invité, le secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, venu nous présenter son concept de démocratie gazeuse. Il désigne un état dégradé de la démocratie liquide qui découle elle-même de la démocratie solide. La démocratie gazeuse possède trois possibilités, trois propriétés même. Elle est informe, instable et inflammable. Informe parce que le clivage droite-gauche n'est plus aussi clair, le paysage politique est en pleine recomposition et les leaders nationaux sont issus de partis peu implantés localement, ce qui renforce le manque de lisibilité de notre vie démocratique. L'instabilité, elle, se mesure à travers les mobilités électorales. L'indécision des électeurs est de plus en plus prégnante. On passe plus facilement d'un camp
temps à l'autre. Enfin, elle est inflammable, la montée du populisme et du complotisme pourrait être l'étincelle qui fera tout exploser, et si la démocratie gazeuse explose, elle pourrait laisser la place à une démocratie à l'état plasma. La fin de notre démocratie libérale, un régime dominé par un courant populiste à l'heure de l'intelligence artificielle, un coup de tonnerre plausible pour notre invité.
Et la suite, il faudra payer pour la connaître, 20,90€, c'est le livre de Gilles Finkelstein, La démocratie à l'état
gazeux. Bon résumé.
Qui salue la performance de Pierre
Courant. C'est vrai
Je salue.
C'est bien, c'est rare, donc c'est bien de le dire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la psychologue Sylvia Freud.
C'est intéressant de choisir le terme de plaisir en me recevant. Vous éprouvez enfin de la joie en parlant à une psychologue, nous y reviendrons. Bonjour, je suis Sylvia Freud, psychologue, donc psychiatre également et psychorigide. Je n'ai pas eu de diplôme pour cette dernière mention, c'est ce qu'on appelle l'INÉ. Votre casque, Mathieu, d'ailleurs, n'est pas installé de façon symétrique. C'est un acte délibéré de votre part pour protester contre votre pays d'origine, la Suisse. Vous diriez que vous êtes en colère contre un pays qui est resté neutre pendant la Seconde Guerre mondiale.
Non, je ne dis rien du tout.
Votre corps parle pour vous, Mathieu. Ce n'est pas le moment de répandre votre haine. Vous n'êtes pas tout seul. Autocentrisme très prononcé.
Pardon, non, bien sûr.
Donc, calmez-vous, Mathieu. Toutes les femmes ne vous veulent pas du mal.
Oui, merci Sylvia Freud. Vous êtes une parente ou pas de Sigmund Freud ?
C'est intéressant comme question, Mathieu Noël. Faites-vous toujours des raccourcis analytiques dans votre métier ou des fois vous allez en profondeur ? On ne veut pas se salir les mains, beaucoup de pathologies pour Noël. Je m'appelle Sylvia Freud, cela veut-il dire que j'appelais mon père Sigmund ? Et vous, Mathieu Noël, appeliez-vous votre père papa ? Qu'est-ce que vous répondiez aux enfants qui vous disaient que le papa Noël n'existe pas ? Est-ce que vous aviez cru votre père lorsqu'il vous a dit qu'il existait ? Vous aviez donc deux papas Noël, Mathieu ? Qui était la maman Noël ? Et les lutins, car qui dit Noël dit lutin ? La lutte, hein, intérieure. C'est exactement pareil, pourtant c'est tout autre. Revenons-en à ma venue, il faudrait me payer bien plus pour une consultation bénévole.
Ça ne veut rien dire.
Exactement, ça ne veut rien dire. Tout comme votre mère qui ne voulait rien vous dire sur le Père Noël. Alors vous avez tout préféré transférer dans Alexandra, votre chaussette porte-bonheur. Mais regardez, qui est venu avec moi ?
Oh non.
Coucou Mathieu, coucou, c'est Alexandra. Ta chaussette porte-bonheur, tu te souviens de moi ? Tu m'aimais beaucoup pendant ton adolescence.
Oui.
Est-ce que tu veux me dire tous les secrets, Mathieu Noël ?
Non, Sylvia, j'aimerais vraiment qu'on en revienne à notre invité, Gilles Finkelstein.
Oui, Monsieur Noël, belle diversion, parlons d'invité, bien sûr, que je connais très bien. Monsieur Finkelstein, on était ensemble en sociaux, il ne s'appelait pas comme ça à l'époque d'ailleurs. Il a voulu mettre Einstein à la fin de son nom pour faire plus intelligent. Il faut arrêter de s'approprier la vie des autres, Gilou. Gilles Finkelstein, ça s'appelait d'ailleurs Gilles Flottante à l'époque. Je lui ai dit que ça ferait un fiasco et puis mes conseils ne lui ont pas suffi. Gilles Flottante en voulait toujours plus. Aujourd'hui, il présente son livre « La démocratie à l'état gazeux ». Alors que l'état gazeux, ce sont mes livres à moi, ce sont mes idées. La psychologie à l'état gazeux. Le couple à l'état gazeux. Les enfants HPI à l'état gazeux. L'eau pétillante à l'état gazeux. Et enfin, mille et une façons de faire cuire des flageolets à l'état gazeux. Un volume qui a fait beaucoup de bruit. Ce sont que des best-sellers dans le milieu et ils me piquent mon idée. Tu voulais aller où, Gilou, avec ta démocratie à l'état gazeux ? Tu sais, Gilou, si tu ne veux pas répondre, nous pouvons trouver une autre solution. Mathieu, vous acceptez de prêter Alexandra à Gilles ?
D'accord.
Coucou, Gilou, c'est Alexandra. La chaussette de Mathieu. Alors dis-moi, mon Gilou, pourquoi tu voles les titres de Sylvia ? Tu peux tout nous dire, tu sais que je suis ton ami. Tu veux des feutres aussi ? Des petits feutres pour dessiner, pardon.
Mon téléphone qui sonne, excusez-moi. Oui ? Sylvia à l'arrache, j'écoute. Et laissez le colis devant la porte, merci. Pardon, mais excusez-moi.
Vous vous appelez pas Sylvia Freud ?
Faut arrêter de croire au Père Noël. Voyez. Les femmes, on les prend jamais au sérieux, évidemment. J'ai mis toutes les chances de mon côté.
Merci Lisa Perriot. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et sur scène tous les mercredis à la Nouvelle Scène ce samedi 15 novembre à Auray et le 3 décembre à Tours. Et si vous n'avez pas dans la vie de psy, prenez-en une rapidement. Merci Gilles Finkelstein. Grâce à vous désormais, dans les dîners en ville, quand on nous demandera ce qu'on pense de la situation politique, on pourra prendre un air pénétré et dire clairement, on est entré dans une phase de démocratie gazeuse. Je rappelle votre livre, La démocratie à l'état gazeux, c'est disponible chez Flammarion. Zoom Zoom Zen.